Chapitre 14. Un faible. En mer, détroit de Bonifacio. Ceci est ma confession, écrite pour toi, mon Antonin, pour toi seul. Elle coûte à mon orgueil, mais elle le soulage aussi. Je ne m'en dirai pas, affublé d'un masque hypocrite, acclamé comme un héros, lorsqu'au fond, je ne suis qu'un lâche. Toi, du moins, dont la tendresse a toujours su me pardonner, toi, à qui j'ose tout dire, tu connaîtras la vérité. Un lâche, c'est peut-être trop. Mauglas était un lâche. Mais si j'ai reculé devant tous mes devoirs, je ne suis jamais descendu comme lui aux basses besognes. Disons que je suis un faible, espèce qui pullule, et encore ai-je pour excuse à cette faiblesse qu'elle date de la mort de notre père. Trop violente pour des enfants, cette secousse tragique avait occasionné chez toi des troubles de la parole. Chez moi, rien d'apparent, mais un détraquement de l'organisme. Lequel, j'en suis encore à me le demander. Très fort dans mes études jusqu'alors, glorieux de mes succès, je n'ai plus été désormais qu'un écolier médiocre, appliqué comme auparavant, plus orgueilleux encore, si c'est possible, mais dont les efforts n'ont pas abouti une fois. Est-ce ma volonté qui a été atteinte ? Probable. Il me semble, en tout cas, qu'à dater de ce jour, c'est le dessus de moi, ma seule surface qui a vécu. En dessous, tout était vide, sapé, comme ces profondeurs que la mer creuse là-bas, en face de nous, dans les noirs luisants du basalte, sous les maisons blanches de Bonifacio. Malgré tout, mon temps de lycée me laisse un souvenir délicieux, parce que l'existence y était réglée, le travail, les récréations même, obligatoires. On me disait « Allez à droite, allez à gauche. » J'obéissais avec transport, savourant la joie subtile de marcher dans le rang. Et quand les autres élèves paraissaient si heureux de quitter le bahut, je me rappelle le plaisir que j'ai eu à y passer quelques mois supplémentaires pour préparer normal. C'est qu'en dehors les délices de la vie automatique, cette prolongation de séjour au lycée reculait pour moi le moment des responsabilités terribles que mon père m'avait léguées en mourant. Ma préoccupation constante, la perspective de ce devoir à remplir, avec la conviction que je ne saurais pas. Oh, ce drame d'Hamlet, dans ma mémoire de gamin, quelle terreur il a laissé! Comme je l'aimais, comme je le plaignais, ce pauvre jeune prince! Hamlet et la cariatide écrasée par sa pierre, un admirable petit marbre de Rodin, que je voyais toujours sur le bureau de l'illustre Marc Javel, qui le suivait comme un fétiche dans les innombrables ministères où Pierre Isoard et moi nous allions le relancer. Oui, l'expression douloureuse de cette figure de femme, sous l'énorme et dur monolithe qui lui broyait les reins, voilà, avec le sourire désolé du prince de Danemark, les deux terrifiants symboles qui, durant toute ma jeunesse, me représentaient ma tâche future dans la vie. Tu vois que j'avais pris l'héritage paternel au sérieux. Voulant si bien, pourquoi n'ai-je pas mieux réussi? Nous avons accusé le détestable outillage, la difficulté de nourrir une famille avec du latin et de la philosophie. Eh bien non, c'est l'ouvrier, ce sont ses bras qui étaient trop faibles. Mais jusqu'à la fin, mon orgueil n'a pas voulu en convenir. Ah, ironie de l'existence! Dire que chez nous, autour de nous, à ton atelier, mon Antonin, dans les bureaux de la guerre, où Monsieur Esprit est venu avec moi pour me faciliter un prompt embarquement, partout j'ai été complimenté, encouragé. C'est bien ce que vous faites là, jeune homme. Ce que je faisais, je fichais le camp. Responsabilité, devoir, fardeau trop lourd pour la faible cariatide, je m'évadais de vous tous. Je fuyais la famille que je ne pouvais soutenir, la perspective d'un ménage, la femme, l'enfant, car bientôt Geneviève sera mère, et d'avance, j'ai vu les yeux de Pierre Isoard braqués sur moi. Épouse ma fille ou je te tue. C'est cette double menace aussi qui m'a fait fuir. Je me sentais incapable de cette chose, pourtant si simple, et que je redoutais presque autant que la mort, un nid, un foyer à construire, des enfants à élever, l'exemple à leur donner, une carrière à leur choisir. C'est devant tout cela que j'ai peur, que je recule. Et si tu savais ce qu'il y a de jeunes gens comme moi ? De ton dernier voyage à Paris pour le conseil de révision date mon projet de partir à ta place. Après tant d'avatars, d'efforts stériles en littérature, en médecine, en politique, J'ai pensé qu'au moins je serais bon à quelque chose. La tantine, quand je lui en ai parlé pour la première fois, m'a dit seulement « Pauvre petit !» Pas un mot pour elle, ni pour son enfant. Qu'a-t-elle pensé en me voyant partir? M'admirait-elle, elle aussi? Croyait-elle à la sublimité de mon dévouement? J'en doute. Mieux que personne, elle savait ma faiblesse et dès le premier jour m'a aimée à cause de cela. Bien plus mère que femme et que maîtresse, j'ai toujours été pour elle son pauvre petit. Ne me sentant pas de force à remplir ma tâche, elle a voulu m'y aider et s'est sacrifiée pour moi jusqu'à la fin. Oh, je t'en prie, frérot, ne l'abandonne pas. C'est à toi que je la confie. Avant qu'il soit longtemps, le mariage invraisemblable de notre petite Cendrillon t'aura fait la maison moins lourde. Devenue Madame Claudule Jacquin, Dina ne laissera pas notre mère à un comptoir de magasin. Alors, pense à la tantine si bonne, si généreuse. Occupe-toi d'elle et de mon enfant. Rappelle-toi qu'ayant essayé de faire de moi un homme, elle n'a pas pu y parvenir au prix de tous ses efforts. Peut-être, à vous deux, y réussirez-vous avec le petit qu'elle va mettre au monde. Je t'écris sur mon sac de marsouin, à l'avant de l'Irrawaddy, et par un temps de vinaigre, comme ils disent. Ne t'étonne donc pas si mes phrases et mes jambages sont bousculées. Par l'influence du sénateur Tony Jacquin et de ton patron, M. Esprit, j'ai obtenu, entre autres faveurs, de ne pas m'arrêter au dépôt de Toulon et de filer droit en Cochinchine où est détaché mon 3e bataillon. J'aurai là-bas la vie d'automate que j'aime. Une, deux, droite, gauche, sans même la responsabilité d'un galon de caporal. Pour corriger la monotonie des journées, un décor nouveau, des verdures géantes, des fleuves qui sentent le musc et la magie perpétuelle du danger. À propos de danger, mon voisin de couverte, un soldat de la Légion étrangère, me montre dans ces terribles passes de Bonifacio où nous venons d'entrer, et sur des roches à fleurs d'eau tout près de nous, une pierre tombale blanche et droite, exaucée d'une croix. C'est ici que, pendant la guerre de Crimée, la sémillante s'est perdue corps et bien avec un millier d'hommes qu'on a retrouvés, tous morts, sur cet îlot des Lavezzi, accrochés les uns aux autres, en tas, par grappes, et qui ont été enterrés à l'endroit même de leur naufrage. Voilà des morts qu'on ne visite guère, et des tombes dont les fleurs ne doivent pas être souvent renouvelées. Il est tentant tout de même, ce petit Père Lachaise en pleine mer. On doit y être bien pour dormir. Pas de risque qu'on vienne y fusiller des fédérés, qu'on s'y saoule et qu'on s'y massacre comme dans les cimetières de Paris. Le vent qui soufflait en tempête depuis le matin est tombé brusquement, mais la mer reste lourde, des lames énormes sous un ciel bleu noir immobile, sans un souffle d'air. Par instant, le navire se dresse tout debout, à croire que les passagers du pont, étendus à l'avant, vont glisser jusqu'au rocking chair des premières. Imagine-toi, frérot, que tout à l'heure, dans une de ces brèves visions où tout le navire se lève et nous apparaît d'un bout à l'autre, j'ai cru distinguer, à l'arrière, dans un groupe de béguines voilées de noir, la silhouette de Madame Valfond, et, plus près de nous, mêlée à des infirmiers aux brassards blancs à croix bleue, au nez calmouc qui me faisait penser à Lubniac, la face carrée et huileuse de notre doctoresse sous des lunettes d'or et un petit chapeau cocardé de fleurs jaunes. Pour Sophia, c'est elle, j'en suis sûre. Je me souviens avoir lu, quelque temps avant mon départ de Paris, un article annonçant le prochain embarquement pour Bombay de la mission du docteur Kassagnosov et citant parmi les catéchistes missionnaires Madame Valfond, désespérée par la mort de sa fille. Pour empêcher l'ancien ministre des Affaires étrangères, atteint du même deuil, de s'embarquer lui aussi, de se donner à l'œuvre des enfants malades, il a fallu l'effort de tous ses amis, lui montrant les services qu'il pouvait rendre encore au pays, la disette où nous nous trouvions d'hommes d'État, d'hommes politiques, et enfin le côté vraiment trop clérical d'une œuvre humanitaire sans doute, mais fondée sous le patronage de Don Bosco. Ce n'était pas la place d'un grand maître de la franc-maçonnerie. L'article m'avait amusé. J'y reconnaissais la phrase papelard des grimacières de l'ancien rédacteur du Galoubet. Mais c'est égal, il retarde le Tartuffe du Grand Orient avec son anticléricalisme. La montre de Marc Javel est bien mieux à l'heure. Te rappelles-tu quand notre père est mort? Il n'entrait pas dans les églises, le Marc Javel de cette époque-là. Et à l'enterrement de Florence Marquez, pendant que Valfond se promenait dans le petit square devant Sainte-Clotilde, je voyais l'autre, broyant son front et ses genoux sur les dalles du chœur, à côté du jeune homme pervers, ce délicieux Wilkie, très au courant de l'heure, lui aussi, et sachant que la République scientifique d'Auguste Comte a fait son temps. Ah, Pierre Isoard avait raison. Le plus malin de tous, c'est Marc Javel, l'homme boué, le flotteur au gré des vents et des courants, qui ne sert à rien ni à personne, mais qui donne à tous l'illusion que nous avons gardée si longtemps qu'on pouvait s'accrocher à lui. Celui-là, certainement, ira plus loin que tous les autres, parce que, n'ayant rien de supérieur, l'éloquence d'un commis voyageur, les connaissances d'un bon président de cercle de province, il n'offusque personne, et cependant représente très bien. Et puis, Marc Javel ne sait pas le latin, c'est peut-être le secret de sa force. Tonin, Tantine, je vous en prie, que mon enfant ne sache pas le latin, qu'il ne fasse pas d'études classiques. En demandant le contraire pour son fils, mon père m'a porté malheur.